Voilà, Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de toi, non seulement pour les charismes que nous exercerons tout à l'heure, ou le charisme de chant en langue que nous avons exercé maintenant, charisme que tu nous donnes pour annoncer le Christ, mais tout simplement aussi pour prier. On ne peut pas prier sans l'Esprit-Saint, on ne peut rien faire sans l'Esprit-Saint. Donc il n'y a pas simplement que chez ceux qui exercent des charismes, on a besoin de l'Esprit-Saint, mais tous, on a besoin de l'Esprit-Saint, et tous, le Seigneur veut nous donner des charismes. En particulier, le charisme le plus grand, qui est celui de la charité. Le Seigneur veut que nous soyons actifs dans notre foi, et pour cela, il dépose des dons spirituels. Pas forcément le don de guérir, ça c'est plus rare, mais on peut quand même prier pour la guérison, on peut avoir le don de la foi pour obtenir des guérisons, on peut avoir le don de l'accueil, le don de l'écoute. Tous ces charismes, qu'ils soient plus simples ou plus, entre guillemets, extraordinaires, sont tous ordinaires pour l'Esprit-Saint. Donc nous avons tous à demander au Seigneur des charismes. C'est pas de l'orgueil de demander à Dieu des charismes. Maintenant, il faut avoir le discernement pour les exercer. Il faut savoir bien les exercer, parce qu'il y a aussi des gens qui les exercent mal, et ça, parfois ça peut faire très mal. Quand on parle au nom de Dieu et qu'on raconte n'importe quoi, ça peut faire très mal. Donc il faut vraiment aussi du discernement pour exercer les charismes. C'est pour ça que pour les charismes plus extraordinaires, on les exerce souvent dans des groupes de prière où il y a des personnes qui ont du discernement, qui aident à bien les exercer, c'est important. Sinon les groupes de prière peuvent tourner au vinaigre s'il n'y a pas de discernement à l'intérieur de ces groupes. Donc demandons vraiment au Seigneur l'Esprit-Saint, mais aussi des personnes qui aient un discernement, c'est-à-dire une sagesse, une capacité à sentir que c'est vraiment l'Esprit-Saint qui est là ou que ce n'est pas du tout l'Esprit-Saint, ça vient d'ailleurs. L'Église a besoin de gens qui aient du discernement. Pas simplement des prêtres. Les prêtres, on est formés pour ça, mais parfois on n'en a pas, ça on peut se tromper aussi. Mais tout un chacun. On a besoin donc que parmi les chrétiens, il y ait des gens qui aient du discernement. Et mieux on connaît l'Évangile, mieux on connaît la parole de Dieu, puis aussi, plus on a les pieds sur terre et la tête au ciel, les pieds sur terre et la tête au ciel, plus on pourra avoir du discernement. Voilà, alors demandons au Seigneur toutes ses grâces pour cette assemblée, pour pouvoir agir selon sa sainte volonté, selon sa sagesse. Dieu agit avec sagesse. Donc il faut nous laisser guider par cette sagesse de Dieu, qui parfois nous dépasse, que l'on ne maîtrise pas, bien sûr, mais on peut quand même percevoir que Dieu agit avec beaucoup de sagesse. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 5, à partir du verset 1, « Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or il existe à Jérusalem, près de la probatique, une piscine, qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques gisait une multitude d'infirmes, aveugles, boiteux, impotents, qui attendaient le bouillonnement de l'eau. Car l'ange du Seigneur descendait par moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier alors à y entrer, après que l'eau avait été agitée, se trouvait guéri, quel que fût son mal. Or il y avait là un homme qui était infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant étendu et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit « Veux-tu guérir ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine » quand l'eau vient à être agitée, et le temps que j'y aille, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri, il prit son grabat et il marchait. Voilà ce très beau texte qui continue encore après, mais je m'arrête là pour ce soir. Donc, qui se déroule pendant une fête des Juifs, je ne sais pas très bien laquelle. Et Jésus est à ce moment-là à Jérusalem. Habituellement, il n'était pas à Jérusalem, il est en Galilée, il exerce son ministère en Galilée, à partir de Capharnaüm. Vous savez que le Seigneur a rayonné à partir de cette fameuse ville de Capharnaüm, la ville de Pierre. Et là, il monte à Jérusalem, comme il le fait régulièrement, pour les fêtes. Et dans l'Évangile de Jean, on a régulièrement des montées de Jésus à Jérusalem. Donc à Jérusalem, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Alors pourquoi Jean nomme cette piscine, qui d'ailleurs on a historiquement qu'elle existait, les archéologues l'ont trouvé, cette fameuse piscine, Bethesda, qui veut dire, Bethesda, ça veut dire maison de la miséricorde. Ce n'est pas par hasard que cette piscine s'appelle Bethesda, maison de la miséricorde. Et donc cette piscine est un sanctuaire de guérison. Alors, ce n'est pas vraiment un sanctuaire juif, il semble que ce soit plutôt un sanctuaire païen. Mais bon, c'est un sanctuaire de guérison. Les gens viennent là et attendent une guérison. Et on voit sous ces portiques une multitude d'infirmes, de gens qui n'ont plus que cette piscine comme seul espoir. C'est l'eau de cette piscine. Donc, Jean nous cite, des aveugles, des boiteux, des impotents. Ils sont tous là à attendre le bouillonnement de l'eau. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un bouillonnement de l'eau, etc., ou est-ce que c'est juste une croyance populaire? C'est difficile à déterminer dans ce texte. En tout cas, ils attendent tous le bouillonnement de l'eau, et ensuite, c'est le premier qui jette qui a gagné. Donc, il y a une espèce de compétition pour essayer d'être le premier qui jette dans la piscine. Une forme d'élitisme. Donc, finalement, on peut se dire que c'est le moins malade qui va jeter le plus vite. Ça paraît logique, puisque le plus malade, il a le plus de temps pour se jeter dans la piscine. Donc c'est une méthode de guérison quand même un petit peu particulière, qui n'est pas vraiment très évangélique, si j'ose dire. Voilà, ils sont tous là à attendre, et quand il y en a un de plus qui arrive, ceux qui attendent, ils se disent « mince, il y en a un de plus, dans la concurrence va être plus dure ». Donc plus il y en a qui attendent, plus les autres se disent « ben j'ai moins de chance », parce que plus il y en a qui attendent, moins ils ont de chance d'être les premiers. Donc l'ambiance ne doit pas être non plus, à la fête, dans cette piscine, bien que ce soit un jour de fête à Jérusalem. Les gens sont plutôt en train de se regarder en chien de faïence, comme on dit, en se demandant si l'eau ne va pas aller plus vite que lui dans l'eau, si elle est agitée. On ne sait même pas quand elle est agitée, on ne sait même pas si elle a déjà été agitée. On a juste cette croyance que quand elle est agitée, le premier à y être est guéri. Alors parfois, il y a des gens qui pensent que voilà, quand le Seigneur a fait 3 guérisons, ben ensuite c'est terminé, donc il n'y en aura plus d'autres. Il n'y a pas de compétition pour le Seigneur. Le Seigneur, il peut guérir... Il n'a pas de quota de guérison. Et parfois, il y a des gens qui sont surpris que dans cette prière, il y a autant de guérisons. Il faudrait une tous les 3 mois, ça serait plus crédible. Non, il n'y a pas de quota de guérison avec le Seigneur. Tout est lié à notre foi, tout est lié à notre désir de guérir, comme on va le voir, tout est lié à l'amour du Seigneur. Il n'y a pas de quota de guérison. Le Seigneur, il agit quand il veut, comme il veut. Il est Dieu tout-puissant. Et donc, il n'y a pas de compétition entre les personnes qui veulent être guéries. Au contraire, le Seigneur veut que nous soyons un seul corps, que nous prions les uns pour les autres. Et plus on est unis dans la prière, plus la fécondité de cette prière sera grande, plus il y aura des miracles et des guérisons. Il y a là un homme qui est infirme depuis 38 ans. Et Jésus, qui a dû marcher au milieu de ces malades, rencontre cet homme. Alors pourquoi lui plutôt qu'un autre, ça on ne sait pas. C'est le désir de Dieu, et en même temps, on sait bien que le Seigneur n'ignore pas les autres. Quand le Seigneur s'occupe d'une personne, ça ne veut pas dire qu'il ne s'occupe pas des autres. Quelque part, les autres, ils s'en occupent aussi, même si c'est moins visible dans ce texte. Donc, il est infirme depuis 38 ans. 38 ans, c'est presque 40 ans. C'est presque le temps du peuple hébreu au désert. 40 ans, c'est dans la Bible, c'est une période de purification. C'est le temps de la purification. Pour être purifiés, les Hébreux, ils ont mis 40 ans. 40 ans à marcher dans le désert, voilà, un peu galéré, 40 ans. Et Jésus s'informe de l'état de cet homme auprès d'autres personnes, et puis ensuite il va lui parler directement et lui pose une seule question. Et une question qui paraît quand même très étonnante, parce qu'a priori, on peut se dire que c'est une évidence. Veux-tu guérir? On demande à un malade, veux-tu guérir? On pourrait penser, oui, évidemment, je suis malade, je veux guérir. On pourrait se dire, il n'y a pas de malade qui ne veuille pas guérir. En général, quand on est malade, on veut guérir. Mais voilà, cet homme, il est là depuis 38 ans et probablement que lui, il n'y croit plus. Donc finalement, dans son cœur, le désir de guérir s'est éteint parce qu'il n'y croit plus. De toute façon, donc il n'a même plus le désir de guérir, c'est tout à fait possible. Sinon, le Seigneur ne lui poserait pas cette question, veux-tu guérir? Ça montre aussi que le Seigneur... Évidemment, dans la vie chrétienne, le Seigneur nous appelle à offrir nos souffrances. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir aussi un désir de guérison, vous voyez. Ce n'est pas parce qu'on offre au Seigneur nos souffrances et nos difficultés pour le salut du monde qu'on ne veut pas guérir. Ce n'est pas contradictoire, vous comprenez. On n'est pas dans le dolorisme en disant « je veux absolument souffrir un maximum, plus je souffre, mieux ça va ». Ce n'est pas du tout ça. La souffrance, ce n'est pas le but de notre vie. Donc quand on souffre, on l'offre au Seigneur, comme Jésus a offert sa souffrance sur la croix. Mais nous avons tous le désir de guérir, et ce désir, il est saint, c'est Dieu qui l'a mis dans notre cœur, mais parfois il peut être éteint par beaucoup de découragement, par beaucoup de choses. Et quand on regarde la réponse de cet homme, il dit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, dans la piscine. Quand l'eau vient à être agitée, le temps que j'y aille, un autre descend avant moi. » Donc en fait, au lieu de répondre à la question du Seigneur « Veux-tu guérir ?» Est-ce que oui, on pourrait dire « Oui, je veux guérir. » Il est en train de lui expliquer tous les obstacles à sa guérison. Donc cet homme, en fait, il s'est fixé dans sa tête, psychologiquement, sur tous les obstacles possibles à sa guérison. Ben, c'est sûr que ça ne va pas l'aider à guérir s'il ne regarde pas le Seigneur et ne dit pas « Franco, Seigneur, je désire guérir. » S'il est toujours là en train de ressortir, mais c'est pas possible que je guérisse parce que de toute façon, il y a trop d'obstacles. Donc c'est pas possible. Donc déjà, voilà, il pourrait mettre un mur. Mais heureusement, le Seigneur, même quand on met un mur, il peut passer par-dessus le mur parce qu'il nous aime, même si on a un manque de foi, même si psychologiquement on a des blocages. Le Seigneur, il est capable de passer au-dessus du mur. Comme il est dit dans les cantiques, que le bien-aimé saute au-dessus des collines pour rejoindre sa bien-aimée. Donc entre nous et Dieu, on est souvent des obstacles qui peuvent empêcher notre guérison. Mais le Seigneur, il saute aussi, heureusement, bien souvent, au-dessus de ces obstacles. Et il vient nous rejoindre, comme il a rejoint les apôtres après la résurrection, qui étaient enfermés dans la salle. Il est passé malgré la porte fermée, et le Seigneur entre souvent, bien que nous ne lui ouvrons pas la porte. Alors Jésus, voilà, cet homme pose pas réellement un acte de foi, et pourtant le Seigneur, eh bien, va poser un acte de guérison. Il lui dit, lève-toi, prends ton grabat et marche. Lève-toi, prends ton grabat et marche. Et aussitôt, l'homme fut guéri, il prit son grabat et il marchait. Pourquoi Jésus lui dit, prends ton grabat et marche? Parce qu'il dit à cet homme, maintenant tu vas t'occuper de toi-même. Quand on est malade, on est dépendant des autres, et c'est normal, c'est parfois même humiliant et dur d'être dépendant des autres comme ça. Et le Seigneur lui dit, maintenant c'est toi qui vas marcher. Ça c'est évidemment la grande joie de la guérison, c'est de pouvoir marcher par soi-même, de pouvoir être autonome, entre guillemets, mais pas pour retourner dans l'individualisme, parce qu'il ne dit pas « Lève-toi, prends ton grand bas et marche, et vis ta vie pour toi-même, et puis t'occupe pas des autres. » C'est pas du tout ça. On est dans une société très individualiste, vous savez tous, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, comme on dirait, mais chacun pour soi d'abord. Bien, le Seigneur lui dit « Prends ton grand bas pour t'occuper des autres, pour être toi-même témoin de mon amour auprès des autres, pas pour être individualiste. » Voilà. Alors, rendons grâce au Seigneur qui donc guérit cet homme instantanément. Cette parole est efficace. Cet homme, il prend son grabat et il marche. Et il sent qu'il est guéri et il est vraiment guéri d'un coup. On peut demander au Seigneur, à partir de ce texte, on sait qu'on peut demander au Seigneur la guérison selon sa sainte volonté. Et le Seigneur nous dit aussi, veux-tu guérir ? Seigneur, que ta volonté soit faite. Alors je rends grâce au Seigneur pour toutes les guérisons qui s'opèrent dans cette assemblée, mais il n'y a pas qu'à Saint-Nicolas-des-Champs, il y a des guérisons. Heureusement, Dieu soit loué. Dieu guérit dans le monde entier. Mais c'est un lieu privilégié où le Seigneur guérit parce que tous ensemble, nous demandons au Seigneur ces guérisons. Nous lui demandons tous ensemble et notre foi commune nous porte pour obtenir cela. S'il y en a un qui a moins la foi, il sait qu'il peut s'appuyer sur la foi de ses frères et sœurs dans cette assemblée, parce qu'on prie tous ensemble les uns pour les autres. On n'est pas ici chacun pour soi, on est là chacun pour tous. On est là pour, finalement, pas simplement pour soi, mais pour tous et pour toutes les intentions qui sont portées ici. Voilà, c'est important que tous, nous ayons le souci de tous dans cette assemblée de prière. C'est pour ça que nous saluons les uns les autres au début de l'assemblée pour faire un corps. Alors maintenant, je vais donner quelques témoignages. Alors, j'ai reçu ce témoignage d'Aurore, qui est à la fois simple et magnifique. Donc, je m'appelle Aurore, j'ai 34 ans, je voudrais rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits et toutes les grâces dont il m'a fait cadeau. J'ai reçu 3 cadeaux. Voici mon témoignage. Depuis des années, je souffre du manque d'amour de mon père en raison de son absence, son indifférence, etc., la complexité de la relation avec mes parents. Je suis venu à la prière des malades le jeudi 24 novembre 2016 et une parole a été dite par le Seigneur. J'ai beaucoup à pardonner à chacun d'entre vous, mais si vous pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, je suis prêt à tout vous pardonner. Cette parole m'a beaucoup travaillé et depuis lors je sens une grande paix. Et alors j'ai renoué le dialogue avec mon père le 28 novembre par Facebook. Je lui ai dit que je l'aimais et il m'a répondu que lui aussi m'aimait. Cela m'a fait tellement de bien de lui dire cela. Moi, orgueilleuse qui étais dans l'attente, qu'il me demande pardon ou vienne vers moi. C'est comme si Dieu lui-même lui pardonnait et me guérissait en même temps. Merci mon Dieu pour cette réconciliation. Et merci Seigneur pour cette réconciliation entre Aurore et son papa. C'est peut-être les guérisons les plus importantes. Ce sont les réconciliations familiales. Deuxième grâce de toute ma vie depuis l'obtention de BTS, donc elle a 34 ans, je n'ai jamais eu l'opportunité de travailler en CDI ni de maintenir un logement à long terme. Depuis des années, je voyage, je postule ici et là dans l'espoir de trouver un emploi stable, sans succès. J'ai postulé au sein d'une ambassade à l'étranger, dans la ville où vit mon futur mari. Ma candidature a été sélectionnée, l'entretien s'est bien passé, j'ai rendu grâce au Seigneur. Mais le lendemain, vendredi, grande déception, la réponse est négative. Pour une millième fois, ma candidature n'a pas été retenue. J'ai pleuré amèrement, mais je me suis souvenu d'une parole donnée à Saint-Nicolas, « Priez sans jamais vous décourager, mes enfants. » Là, j'ai posé ma main sur Jésus-Christ en pleurant et j'ai dit, « Seigneur, tu as dit de ne pas se décourager. Vois, ma situation est difficile, mais si c'est ta volonté que je n'ai pas cet emploi, amen, j'accepte, tu sais pourquoi tu ne me l'as pas donné. » Voilà, donc la semaine suivante, lundi matin, j'ouvre ma boîte mail, surprise, ma candidature dans cette ambassade, en qualité de gestionnaire de visa Schengen, a été acceptée. La personne dont la candidature avait été retenue a renoncé pour un autre poste. Quelle joie, donc j'ai pu signer mon contrat CDI, je commence début 2017. Voilà, petit témoignage qu'il ne faut jamais se décourager. Troisième cadeau. Je suis venu à la prière des malades en novembre, début novembre. Je ne me souviens plus trop quelle date précisément. Une parole de connaissance a été donnée. Le Seigneur guérit une personne d'une allergie aux acariens. Je suis très allergique aux acariens depuis des années. J'avais souvent du mal à respirer. Depuis cette parole, je respire mieux, je n'ai plus le nez bouché. Je rends grâce à Dieu. Voilà, je rends grâce, je bénis, je loue le Seigneur de m'avoir guéri, aimé, sauvé, purifié, pardonné et donné un travail. Je suis en paix et dans la joie. Merci sans fin, Seigneur Jésus. Voilà, merci pour ce beau témoignage. Aurore. Maintenant, je vais vous donner des témoignages de personnes qui sont venues nous les donner, en particulier au groupe d'écoute, ou parfois par mail. Donc, suite à une parole de connaissance annonçant que le Seigneur délivrait une personne d'un esprit serpent, Ina s'est sentie concernée et a pleuré de joie. De fait, elle n'est plus attaquée durant la nuit et elle dort à présent normalement. Donc, elle a vécu une délivrance. Merci Seigneur. Solange prenait des médicaments pour dormir depuis 8 ans. Suite à une parole de connaissance où elle s'est sentie concernée, elle a essayé de ne plus prendre de médicaments. Et de fait, elle a dormi parfaitement. Ce qui est quand même pas mal, parce que quand on prend des médicaments, il y a un temps de sevrage. Au début, on ne dort pas bien, en général. Voilà, donc elle a dormi parfaitement tout de suite. Et 6 mois après la parole de connaissance, elle dort toujours aussi bien. Merci Seigneur. Suite à une parole de connaissance annonçant la guérison d'un œil gauche, une femme a été guérie de son œil gauche. Depuis 1 an, elle souffrait de cet œil après avoir reçu une balle de tennis dans cet œil. Suite à cette parole de connaissance, sa souffrance est totalement partie. Merci Seigneur. Ghislaine a écrit une très belle lettre pour remercier le Seigneur. On devait lui enlever l'utérus à cause d'un gros fibrome avec tout un réseau de petits autour. Et elle pensait ne pas pouvoir le supporter. Elle pleurait, elle aussi, comme Aurore, pour avoir son CDI. Elle pleurait en suppliant le Seigneur de l'aider. Elle est venue à la prière des malades, alors que le Saint-Sacrement était à 3 mètres d'elle. Il y a une parole de connaissance où il était question de l'opération d'un fibrome et où le Seigneur demandait à la personne de ne pas avoir peur. Ghislaine s'est dit alors que cette parole devait être pour elle. Finalement, elle a trouvé un troisième chirurgien qui acceptait de l'opérer sans enlever l'utérus, donc d'essayer cette opération. Et l'opération a parfaitement réussi. Et elle, donc, Ghislaine remercie le Seigneur pour ce succès. Et elle dit qu'en attendant que cette opération réussisse, elle avait offert ses souffrances en s'unissant aux souffrances de Jésus. Voilà, je donne un dernier témoignage. Monique est venue prier il y a 5 ans pour son cousin Titou. Parole de guérison annonçait qu'une personne était venue prier pour une autre personne cardiaque qui était à ce moment-là dans le coma, qu'elle sortirait du coma. Et 2 jours après, son cousin est sorti du coma. Voilà, merci Seigneur pour toutes ces grâces que tu accordes à travers ces assemblées. Qu'elles soient plus simples ou plus extraordinaires, peu importe, ce sont des grâces qui viennent nous toucher, Seigneur, toucher la vie des personnes qui ont reçu ces grâces, mais nous aussi, nous en sommes témoins, et nous te rendons grâce, et nous te demandons ce soir de continuer ton œuvre de miséricorde parmi nous, que cette Église soit Bethesda, la maison de la miséricorde du Seigneur. Amen.